Merci d'écouter RFI. 8h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
Anne Contenaire.
RFI Midi, dernière partie, l'actualité des Amériques et d'Haïti d'abord. Avec notre invité pour parler sécurité, vous avez entendu hier le président de transition dire que les gangs reculaient en certains points. Est-ce bien le cas? Où? Comment? Élément de réponse dans quelques minutes. Reportage aussi à suivre au Panama où les projets de Donald Trump déplaisent beaucoup, vous l'entendrez. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Avec vous, Benoît Ferrand, tout à l'heure, on parlera des assises consacrées à la violence des jeunes qui se tiennent sur l'île de Saint-Martin.
À terme, l'image de marque touristique de l'île amicale pourrait bien être écornée par la montée de la délinquance. Correspondance tout à l'heure de Hervé Pédurand de la Première Guadeloupe.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Et d'abord le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et on commence par parler de cet échange otage contre prisonnier en cours qui se poursuit au Proche-Orient.
Trois Israéliens seront libérés à Gaza demain. Il s'agit de trois hommes, dont le franco-israélien Ofer Calderon. Hier, le transfert des prisonniers palestiniens est finalement allé jusqu'à son terme. 110 détenus ont été libérés au total. Israël avait suspendu le processus pour protester contre les conditions chaotiques de la libération des otages plus tôt dans la journée. Trois Israéliens et cinq Thaïlandais. La trêve à Gaza tient depuis le 19 janvier et l'ONU demande que 2500 enfants palestiniens gravement blessés puissent enfin être évacués. Avec la garantie de pouvoir revenir dans le territoire palestinien, Antonio Guterres insiste pour obtenir leur transfert. Après avoir rencontré quatre médecins américains qui ont travaillé dans les hôpitaux de Gaza, en bonne partie détruits, notre correspondante Karine Houten à New York a également pu recueillir leurs témoignages. Ils dénoncent des entraves permanentes d'Israël.
Depuis le début de la guerre, l'évacuation des enfants gazaouis blessés vers des pays arabes prêts à les accueillir n'est accordée qu'au compte-gouttes et encore plus rare depuis mai dernier, depuis qu'elle est gérée par l'armée israélienne. Et malgré le cessez-le-feu, 2500 enfants gravement blessés restent bloqués. Des médecins américains qui reviennent de Gaza expliquent que cela est compliqué par l'absence de processus administratif ou par des règles absurdes concernant les adultes accompagnants. Ils dénoncent aussi les restrictions concernant le matériel médical. C'est in extremis que la docteure Mimi Sayed a sauvé la petite Mira, 4 ans.
L'équipement dont nous avions besoin était celui que j'avais moi-même apporté clandestinement pour sauver la vie de cet enfant de 4 ans qui avait reçu une balle dans la tête. Ça s'appelle un laryngoscope. Nous ne sommes pas autorisés à apporter des blouses stériles, de la gaz ou même de la nourriture. A-t-on pu apporter des scanners ou des piles pour l'équipement? Absolument pas. Il nous est déconseillé d'apporter tout équipement médical, y compris un appareil portatif pour faire des échographies et qui pourrait sauver la vie des patients.
Enfin, entre visa retardé et arrestation arbitraire, ils protestent contre le traitement des médecins de toute confession qui s'engagent pour des missions courtes à Gaza. Karine Houten, New York RFI.
À Washington, l'enquête sur la collision d'un avion de ligne et d'un hélicoptère va pouvoir avancer. Les deux boîtes noires de l'appareil d'American Airlines ont été retrouvées. L'accident a fait 67 morts. Selon le New York Times, la tour de contrôle était en sous-effectif mercredi soir. Un seul contrôleur au lieu de deux assurait le trafic à ce moment-là. L'agence des transports promet un premier rapport sur les causes de l'accident dans 30 jours. Direction le Nicaragua à présent, Daniel Ortega et sa femme ont désormais les pleins pouvoirs. Progressivement, le président a éliminé tous les contre-pouvoirs depuis les manifestations durement réprimées en 2018. Oriane Verdier, bonjour.
Bonjour.
La réforme de la Constitution a été validée par le Parlement, le mandat présidentiel est prolongé et l'épouse de Daniel Ortega devient coprésidente.
Oui, elle renforce le pouvoir absolu exercé par le couple sur le pays d'Amérique centrale. Les deux dirigeants, Daniel Ortega et son épouse, donc Rosario Murillo, coordonneront notamment les organes législatifs, judiciaires et électoraux qui étaient officiellement indépendants jusqu'à aujourd'hui. Le mandat présidentiel passe également de 5 à 6 ans. Cette mesure étant rétroactive, les prochaines élections auront lieu en 2028. Rosario Murillo est vice-présidente depuis 2017. Elle est donc aujourd'hui coprésidente et pourrait être appelée à prendre la relève de Daniel Ortega. Lui, à 79 ans, il est à la tête du Nicaragua depuis 18 ans. Vous le disiez, le couple a radicalisé ses positions après les manifestations anti-gouvernementales de 2018, dont la répression a fait 320 morts selon l'ONU. Daniel Ortega est accusé par les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine d'avoir instauré une autocratie. Ces changements drastiques marquent la destruction de l'état de droit et des libertés fondamentales au Nicaragua, a estimé un membre du groupe d'experts des Nations Unies pour le Nicaragua.
Oriane Verdier du service international d'RFI et Anne Cantner reviendra plus longuement sur la situation au Nicaragua dans quelques minutes. En France, un compromis a été trouvé à l'Assemblée sur le budget. Les 7 députés, les 7 sénateurs de la commission mixte paritaire sont parvenus à un accord. Leurs conclusions seront examinées dans l'hémicycle de l'Assemblée lundi à partir de 16h. Raphaël Delvolvé, vous êtes en direct de l'Assemblée. Si les socialistes qui ont obtenu des concessions semblent satisfaits, ils entretiennent toujours le suspense sur une éventuelle censure du gouvernement.
Oui, le chef des députés socialistes...
Raphaël Delvolvé en direct de l'Assemblée. Apparemment, on a un petit problème technique. On y reviendra peut-être dans un instant. Mais on va parler à présent des agents de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui sont en grève aujourd'hui. Les inspecteurs de cet organisme public sont chargés de faire respecter les règles en matière d'environnement et ils réclament davantage de soutien du gouvernement. Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour Karine.
Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre François Bayrou avait mis le feu aux poudres, qualifiant certaines inspections de l'OFB d'humiliantes pour des agriculteurs déjà fragiles.
Oui, alors un soutien sans ambiguïté du gouvernement, ce sera permettre aux inspecteurs de l'OFB de porter leurs armes de service de façon non dissimulée, de maintenir leurs effectifs et de traduire en justice tous ceux qui s'attaquent à eux, réclament les grévistes aujourd'hui. Dans les faits, les conflits avec des agriculteurs sont d'ailleurs rarissimes. 180 seulement sur près de 400 000 contrôles. Sylvain Michel, délégué syndical de la CGT Environnement.
Ces contrôles se passent de manière apaisée. On explique les choses, on essaie d'aider les agriculteurs à comprendre et appliquer la réglementation environnementale. Donc, c'est quelques cas rarissimes qui ont été montés en épingle par ces syndicats d'agriculteurs à des fins électoralistes.
Cet agent de l'OFB regrette la récupération politique par François Bayrou. Un tour de passe-passe qui, selon Sylvain Michel, affaiblit la protection de l'environnement en France et masque les véritables problèmes des agriculteurs.
Pour eux, les contrôles administratifs, ça devient une pression supplémentaire quand leur situation économique est déjà très fragile. Donc il faut travailler sur l'origine des problèmes et vraiment remettre en cause le modèle agricole aujourd'hui. Dire que l'agro-industrie n'a pas d'avenir et qu'il faut revenir vers une agriculture vertueuse, respectueuse de l'environnement, qui rémunère correctement les paysans.
Le mouvement de protestation au sein de l'OFB est très largement suivi. 67% des agents sont aujourd'hui en grève.
Stéphanie Schuller du service environnement d'RFI et on a retrouvé Raphaël Delvolvé en direct de l'Assemblée. Si les socialistes ont obtenu des concessions, ils font toujours planer le suspense.
Oui, il va y avoir des réunions ces prochains jours pour savoir comment se positionner sur ce budget. Vaut-il une censure ou non? Ce qui est sûr, c'est que le PS revendique des victoires, les fameuses concessions du Premier ministre sur les fonctionnaires ou cette taxe sur les transactions financières. Un geste supplémentaire, c'est important, a été obtenu ce matin sur le budget de l'aide médicale aux étrangers. La baisse ne sera pas de 200 millions, mais de 111 millions d'euros. Tout porte à croire donc qu'on s'éloigne d'une censure, mais on ne peut pas l'écarter, il reste des incertitudes. La France insoumise va mettre la pression pour que les socialistes votent cette censure. On ne sait pas non plus ce que le RN va faire. Jean-Philippe Tanguy, leur député dans la commission, a entretenu le suspense ce matin. Et puis on ne sait pas, même si c'est pour le coup très probable, si François Bayrou va activer l'article 49.3 lundi pour faire adopter ce budget censé faire revenir le déficit public de 6% à 5,4% du PIB.
Raphaël Delvolvé en direct de l'Assemblée nationale à Paris.
Merci Karine Bellicha. Le prochain journal sur RFI, c'est dans 50 minutes. Et nous sommes sur le continent américain avec Haïti à la une.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
Avant de parler de la situation en Haïti, on va prendre la direction du Nicaragua à la une de votre revue de presse. Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour.
Le Nicaragua, où le Parlement a approuvé la réforme de la Constitution et donné les pleins pouvoirs au chef de l'État, Daniel Ortega, et à son épouse. Il contrôle désormais toutes les institutions et exerce une emprise totale sur la société civile.
Et oui, cette réforme prolonge le mandat d'Ortega jusqu'en 2028, soit un an de plus, détaille la Prensa. Ortega, qui est un homme de 79 ans et qui est au pouvoir depuis 2007, il veut assurer sa dynastie et souhaite gagner du temps, estime le quotidien, pour pouvoir imposer sa femme, désormais coprésidente, et qui serait sa seule successeur. Pour Cienciento Noticias, cette réforme constitue vivement et critiquée par l'ONU, l'Organisation des États américains, les États-Unis et les opposants nicaraguayens. Elle élimine l'équilibre des pouvoirs et légalise l'apatridie pour toute personne considérée comme traître à la nation, tout comme la pratique de la torture. Le journal d'opposition parle aussi de la création d'une police volontaire où des civils armés pourront participer au maintien de l'ordre. Ce sont en réalité des groupes paramilitaires, explique 100% Noticias, qui agissent dans le cadre de la soi-disant opération nettoyage par laquelle le gouvernement du Nicaragua a neutralisé les protestations contre lui.
Aux États-Unis maintenant, les conséquences sur l'agriculture des droits de douane que Donald Trump veut imposer au Canada et au Mexique, c'est à lire aussi dans la presse.
Oui, Politico relate à quel point ces droits de douane pourraient décimer certains pans entiers de l'économie américaine et en particulier le secteur agricole. Le sénateur du Dakota du Sud, John Thune, qui est aussi le chef des Républicains au Sénat, a récemment déclaré, sans une certaine ironie, « Apparemment, le président donne une grande valeur à l'utilisation de ses droits de douane et je suis sûr que nous aurons beaucoup de discussions à ce sujet. Il faut dire que son État pourrait se retrouver dans les tirs croisés de cette guerre des tarifs », poursuit le journal, ce qui pourrait lui donner des brûlures d'estomac sur la position qu'il devra adopter face à un Donald Trump intraitable et incontrôlable. En 2018, lors du premier mandat de ce dernier, les agriculteurs du Dakota du Sud, qui exportent pour plusieurs millions de dollars de soja, de maïs et de viande, ont été fortement touchés par la riposte tarifaire du Mexique et du Canada, et ils en payent encore le prix fort.
Une politique tarifaire qui touchera en premier lieu l'économie des pays dans le viseur de Donald Trump.
Oui, la hausse de 25% de droits de douane attendue ce 1er février au Canada pourrait plonger le pays dans la récession, estime le Washington Post. Le Canada envoie presque 80% de ses exportations aux États-Unis et des millions d'emplois sont concernés. Les secteurs de l'énergie et de l'automobile seraient parmi les plus touchés. Si le Canada décide de répondre par une hausse de droits de douane sur les biens américains, le dollar canadien pourrait lui plonger et les prix augmenter. C'est la destruction mutuelle assurée, estime un spécialiste canadien cité par le journal.
Anne Verdaguer pour la revue de presse. Donald Trump qui envoie à partir de demain son secrétaire d'État en Amérique centrale. Première étape pour Marco Rubio, le Panama. Non pas pour parler de la politique migratoire des États-Unis, les deux pays collaborent déjà sur ce point, mais plutôt pour évoquer le canal de Panama. Ce passage artificiel creusé pour relier la mer des Caraïbes, l'océan Atlantique, à l'océan Pacifique, puis exploité par les États-Unis pendant près de 90 ans. Il est essentiel au commerce mondial, mais Donald Trump a fait savoir qu'il voulait en reprendre le contrôle et critiquer la manière dont ce canal fonctionne. Sans grande surprise, Grégoire Pourtier, les Panaméens sont contre.
Le canal de Panama est surélevé par rapport au niveau de la mer. On y entre et en sort grâce à des écluses. Celle de Cocoli permet désormais le passage des plus gros cargos du monde. Elle a été construite par les Panaméens eux-mêmes après le retrait des États-Unis en 2000, symbolisant pour le petit pays d'Amérique centrale la réussite de son administration. Boris Moreno, vice-président des opérations du canal.
Nos résultats prouvent que nous gérons parfaitement le canal. Tous les pays, y compris les États-Unis, l'ont reconnu au fil des ans. Nous utilisons simplement l'une de nos ressources naturelles pour le bénéfice du Panama.
Il dit ne pas comprendre les critiques de Donald Trump, encore moins ses revendications. Les navires commerciaux américains sont logés à la même enseigne que les autres pavillons et les droits de passage font l'objet d'un processus concerté.
Quand un prix augmente, personne n'est content, mais c'est un prix juste. Nous faisons des études de marché pour connaître la valeur des cargos qui transitent et à partir de là, nous déterminons le droit de passage quelle que soit l'origine du bateau. Nos grilles tarifaires sont publiques et s'appliquent à tout le monde.
Boris Moreno s'étonne aussi des accusations d'une ingérence de Pékin alors que le canal est entièrement géré par le Panama, un pilote local prenant même les manettes des navires le traversant. Mais il est vrai que les Chinois exploitent deux ports dans la zone.
Il n'y en a que deux autour du canal qui sont contrôlés par les sociétés basées en Chine. Et leurs concessions ont été attribuées alors que nous étions encore dirigés par l'administration fédérale américaine en 1997. Et je n'avais jamais entendu de plainte jusque-là.
Au Panama, la remise en cause du fonctionnement du canal a été une surprise. Le député José Antonio Pérez Barboni.
Au début, beaucoup ne l'ont pas pris au sérieux, pensant que c'était des paroles en l'air. Mais nous avons de suite été choqués par la quantité de mensonges qui ont été propagés à travers le monde. Désormais, il nous faut établir une stratégie diplomatique et ne pas céder aux pressions de pays qui voudraient avoir une ingérence au Panama. Jamais nous ne pourrons sacrifier notre souveraineté nationale.
L'élu traduit ici un sentiment partagé par la majorité des Panaméens, beaucoup utilisant des termes bien plus injurieux pour évoquer Donald Trump. Mais la situation permet aussi de dénoncer des problèmes locaux et la corruption des élites.
Sur les réseaux sociaux, pour appuyer des débats sur des questions politiques nationales, on lit des commentaires tels que « Trump récupère le canal »,« Trump vient envahir le Panama ». Et c'est vraiment lamentable.
Julia De Sanctis, présidente d'un groupement d'entreprises, redoute, elle, l'imprévisibilité du président américain. Certes, les producteurs locaux ont peu à vendre aux États-Unis, alors qu'au contraire, la majorité des investissements étrangers dans le pays sont américains. Mais Panama est par exemple une économie dollarisée, ce qui la rend encore plus dépendante.
Plus que de la peur, c'est de la préoccupation. Nous sommes en train d'évaluer les différents risques que les entreprises panaméennes pourraient avoir à affronter. On a vu récemment ce qu'a fait Trump quand il s'est disputé avec la Colombie en augmentant les taxes, en suspendant les visas. Tu te rends compte de la vulnérabilité d'un pays face à la première puissance mondiale.
Certains disent carrément redouter une opération militaire, l'armée américaine étant déjà intervenue pour écarter le dictateur Manuel Noriega en 1989. C'était une autre époque et surtout une autre motivation. Le canal avait cessé de fonctionner pendant quelques heures, la seule fois dans son histoire. Grégoire Portier, Panama, RFI.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Le président de transition haïtien poursuit sa visite en France. Leslie Voltaire rencontre des responsables politiques après un entretien avant-hier avec le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a notamment demandé à l'ONU d'envisager une mission de maintien de la paix en Haïti. Pour parler de la sécurité dans le pays, nous recevons un spécialiste en la matière, consultant indépendant en sécurité et défense. Bonjour Ricardo Germain.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Pour l'instant, il n'y a pas de mission de maintien de la paix de l'ONU. Il y a une mission multinationale d'appui à la sécurité. On est très loin du nombre de troupes annoncées, censées lutter avec la police contre les groupes criminels. On est à un peu plus de 6 mois maintenant de présence de cette mission depuis l'arrivée du premier contingent kényan. Hier, sur cette antenne, le président du Conseil de transition assurait que les gangs reculaient par endroits. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'il y a des effets, des résultats?
Dans un côté, je dois dire que plus particulièrement les Kenyans, ils se sont beaucoup investis aux côtés de la police nationale d'Haïti dans le cadre de cette mission. Et cependant, pour ce qui concerne les progrès enregistrés, ces progrès-là se mesurent qu'à l'aune de victoires tactiques. Et c'est justement là le problème. Il n'y a pas de victoire stratégique. Et ce déficit de victoire stratégique, c'est dû non seulement au défi de financement et du matériel rencontré par la mission, mais parce qu'aussi il y a une lecture trop conjoncturelle de la situation en Haïti. Disons plutôt une lecture trop limitée que ce soit en termes conceptuels, mais aussi en termes géographiques, je dirais. Et qu'est-ce que j'entends par là? Parce que on parle de criminalité, alors que le problème est tout aussi un problème de conflit. Et on parle de gang, là il faudrait parler de groupes armés et criminels. Et aussi construit le problème qu'à Haïti, alors que Haïti est inscrit dans un écosystème régional et que le problème réside aussi au cœur de cet écosystème régional caractérisé par le trafic intense d'armes, de munitions et de drogue.
Des armes qui viennent notamment des États-Unis. À propos de la sécurité, le Premier ministre haïtien a révélé hier que le Conseil supérieur de la police nationale avait été informé du projet des gangs d'attaquer Kinskoff, ce qu'on a vu il y a quelques jours. L'attaque avait commencé dans la nuit de dimanche à lundi. Est-ce que vous nous confirmez qu'en effet, la police avait reçu des informations ?
Bon, le Premier ministre l'a annoncé, donc s'il le dit, c'est forcément vrai. Et maintenant, ce qu'il faut remettre en question, effectivement, c'est le temps de réaction des forces de l'ordre. Ce temps de réaction-là, c'est un peu justifié dans la mesure où ces forces de l'ordre-là se retrouvent sur plusieurs fronts à la fois. Et en plus de manque d'équipement et d'effectifs, et même là encore, est-ce qu'il était possible de faire face à ces groupes criminels alors que l'information circulait déjà qu'ils allaient attaquer? Et ce n'est pas trop évident dans la mesure où il y a un problème au niveau de la gouvernance sécuritaire du pays.
Alors là, Kinskoff, on entend bien les difficultés que vous évoquez pour réagir, même en ayant des informations sur l'imminence d'une attaque. Kinskoff, ça se trouve à l'est de Port-au-Prince. On a vu aussi que plusieurs massacres avaient été commis ces derniers temps dans le département de l'Artibonite. Est-ce que la mission multinationale qui est menée par le Kenya depuis quelques mois maintenant est présente dans l'Artibonite ?
Oui, en effet, et pas trop longtemps, ils ont mené une opération aux côtés de la police nationale d'Haïti. Et durant cette opération, ils ont pu enregistrer quelques victoires, comme je le disais, qui sont des victoires tactiques et non stratégiques.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces troupes puissent enregistrer justement des victoires stratégiques ?
Justement, parce qu'il faudrait une réévaluation de la situation en Haïti. Tout à l'heure, je disais qu'il y a une lecture trop conjoncturelle de la situation. Oui, on s'amuse à parler encore une fois de criminalité alors qu'il s'agit d'un conflit. Or, c'est justement par le fait qu'on résume le problème à un problème de criminalité qu'il y a aussi cette difficulté à transformer la mission d'une mission onusienne. Parce qu'on ne peut pas dépêcher des casques bleus pour aller combattre pour aller résoudre un problème de sécurité publique, même si ce n'est pas le cas et que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faudrait effectivement cette réévaluation et puis inscrire le cadre d'intervention le cadre d'intervention dans la mesure où il s'agit aussi d'un problème régional et en ce sens que Haïti représente une menace pour la région, mais la région aussi représente une menace pour Haïti en termes de trafic d'armes et de munitions.
Ça, c'est un point qui n'est pas du tout pris en compte.
C'est-à-dire d'élargir le cadre d'intervention de la mission.
L'influence régionale.
Non, ce n'est pas forcément sur la table. C'est certain, on parle, mais ce n'est pas assez agité pour dire qu'effectivement, il faudrait agir sur l'écosystème de manière générale.
En attendant, pour l'instant, l'accent est mis vraiment sur la sécurité. Aujourd'hui, la population même est parfois alliée à la police. Le président du Conseil de transition en parlait hier sur cette antenne en parlant de légitime défense. Qu'est-ce qu'il y a comme risque, selon vous, à voir des civils s'impliquer dans la sécurité ?
Le risque, c'est que si ces civils-là ne sont pas encadrés par les autorités, ça pourrait déboucher également ça pourrait exacerber davantage la situation dans la mesure où l'histoire nous démontre que certains groupes d'autodéfense dans le temps se sont finis par transformer en groupe criminel.
Et on évoquait la possibilité de transformer cette mission en mission de l'ONU. On a entendu de très nombreuses voix en parler récemment. Vous l'évoquiez aussi il y a un instant. Est-ce que ça pourrait apporter un début de solution à une prise en charge plus globale que vous évoquiez ?
Déjà, ça pourrait contribuer à résoudre le problème de financement, parce que ce problème est bien réel, le financement de la mission. Mais aussi, si on parle d'une mission de paix multidimensionnelle, ça pourrait adresser aussi d'autres problèmes sociétaux qui sont à la base de ce conflit et à côté de la criminalité.
Merci Ricardo Germain d'avoir été en ligne avec nous, consultant indépendant en sécurité et défense. Merci beaucoup.
Anne Contner.
Un mot encore de l'actualité du continent de football et de la star, Neymar. Il revient dans son tout premier club après un passage pas vraiment flamboyant en Arabie Saoudite. Et même si Neymar est loin de son meilleur niveau, le retour du Brésilien enthousiasme les foules, Baptiste Leduc.
Dans les rues de Sao Paulo, vous ne trouverez personne qui s'oppose au retour de l'enfant du pays. Neymar, 220 matchs et 134 buts à Santos, a gardé chez les paulistes l'image du joueur fantastique et instinctif que le monde a découvert au début des années 2010. Wesley Ribeiro n'avait que 6 ans quand Neymar a quitté le Brésil pour Barcelone. Il est ravi de le voir revenir.
Neymar est un bon joueur, l'un des meilleurs du monde, et je pense que ses performances à Santos seront excellentes.
Maillot du PSG floqué du nom de la star brésilienne sur les épaules, Fernando Tavares n'est pas naïf. Il connaît les critiques qui ont accompagné le Ney tout au long de sa carrière et sait que personne ne le changera.
Je pense qu'il sera toujours le même Neymar. Il est controversé, il l'a toujours été et le sera toujours. Il attire toujours beaucoup l'attention. C'est Neymar.
Qu'importe les blessures et un mode de vie pas toujours compatible avec le très haut niveau, Neymar est toujours aimé à Santos. Ce nouvel idylle va durer au moins 6 mois, une saison supplémentaire en option si affinité.
Baptiste Leduc, il est 14h26 ici à Paris. Et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour l'actualité des Outre-mer françaises. Pour parler d'abord des assises consacrées à la violence des jeunes, elles se sont ouvertes mercredi, sur l'île de Saint-Martin.
Eh oui, car l'image de marque de l'île amicale, c'est son surnom, est menacée par la montée d'une délinquance qui pourrait à terme effrayer les touristes. Objectif de ces assises, la mise au point d'un plan d'action. Correspondance Hervé Pédurand.
L'état des lieux est inquiétant sur cette île multiculturelle. Des faits de violence qui se répètent, des armes, dont des armes de guerre qui circulent, ou encore 2500 jeunes sans travail ni formation. La délinquance sévit n'importe où, même dans un sanctuaire comme l'école. Les pouvoirs publics et la société civile veulent donc vite trouver des solutions à cette violence des jeunes, conséquence possible d'un mal-être. Le docteur Ariel Abekassis est pédopsychiatre au centre hospitalier de Saint-Martin.
Il est très important de pouvoir détecter dès les premières années les difficultés d'apprentissage, notamment l'acquisition de la parole et de l'écriture, car dans ces moments de difficulté, si on n'a pas le soutien nécessaire, on a finalement un enfant qui se désinvestit du milieu scolaire, avec une estime de lui qui est pauvre, et finalement il se tourne vers un milieu qui l'encourage un peu plus, notamment la délinquance et l'agressivité.
Les jeunes sont auteurs mais aussi victimes de violences. Plusieurs sont venus porter leur témoignage pour montrer qu'il existe une vie meilleure après avoir mal tourné. Ces assises réuniront des ateliers autour de 6 grands thèmes. Les travaux doivent durer 2 mois et déboucher sur un plan d'action. À Saint-Martin, Hervé Pédurand, Guadeloupe la Première.
Des conditions météo médiocres, un manque de visibilité pourrait être à l'origine du crash dimanche dernier d'un petit avion de tourisme sur une paroi escarpée de l'île de la Dominique. Crash qui n'a laissé aucune chance aux 4 occupants de l'appareil qui avait décollé pour son vol retour vers la Martinique. Aurélien Février.
Le plan de vol décidé au moment du décollage par les pilotes était de faire route vers le large, selon nos informations. Pourtant, l'avion, le premier à décoller, décide comme à l'aller de longer la côte dominicaise. La décision du décollage, selon des pilotes contactés dans le cadre d'un vol à vue dit VFR, appartient uniquement aux pilotes. Hervé Nissard, ancien consul de France à la Dominique.
C'était pas un endroit à condition de vol VFR, non, ça c'est sûr ce jour-là.
Pendant le vol, il a pu faire face à un événement climatique inattendu, chose courante à la Dominique et sa géographie particulière. Henri Jourda, pilote expérimenté.
C'est une zone qui est particulièrement dangereuse parce qu'on peut se trouver à un endroit où il semble dégagé et en quelques dizaines de secondes, des nuages peuvent se former.
À l'heure actuelle, 2 corps ont été récupérés par les secours. Ils reposent pour le moment au centre funéraire de Saint-Joseph à la Dominique. Par communiqué, la préfecture annonce tout tenter pour récupérer les corps des 2 autres victimes. Ce jeudi, les familles des disparus ont été reçues par le préfet.
Bon après-midi, bon week-end, Anne, à lundi.
Merci Benoît Ferrand, à lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. Vous restez sur notre antenne dans quelques secondes maintenant, Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint se déplace chez l'écrivain et le peintre Mahi Binbin. Très bonne journée à tous.
Demain sur RFI,
c'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Plus de 80% de la production d'huile de palme provient d'Indonésie et de Malaisie. Critiquée pour la déforestation massive et les impacts sociaux qu'elle entraîne, elle est en pleine expansion sur le continent africain. Nous vous emmenons au Cameroun et au Bénin.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.